Pascal Bonitzer, vous accompagnez à l'avant-première avignonnaise de votre nouveau film, Le Tableau Volé. On peut rappeler quand même que vous avez travaillé avec Jacques Rivette, notamment vous avez coécrit La Belle Oiseuse, peut-être un des plus grands films qui a été fait sur les rapports entre un peintre et son modèle. Vous avez beaucoup travaillé avec Raoul Ruiz aussi, qui, dans sa façon de travailler, de régler ses plans séquences, de jouer sur les effets du miroir, avait un rapport très pictural à l'image. Est-ce que vous-même, vous êtes un amateur de peinture ?
Oui. Quand j'étais jeune, j'ai même pris des leçons de peinture auprès d'un peintre qui avait une certaine cote à l'époque, qui s'appelait Robert Lapoujade. Je n'avais pas encore complètement choisi ma vocation et je ne savais pas si je voulais faire du cinéma ou de la peinture. Mais effectivement, j'aime beaucoup la peinture, oui.
Est-ce que vous connaissez des marchands d'art ?
J'en ai connu à l'occasion des travaux préparatoires de ce film. Je connais des amateurs d'art et des collectionneurs, mais je ne peux pas dire que j'ai un rapport très très étroit avec cette profession. Il a fallu que je fasse une enquête.
Je vous pose la question parce qu'il y a une scène tout à fait étonnante dans le film. C'est la première fois où les deux marchands, le couple interprété par Alex Lutz et Léa Drucker, découvrent pour la première fois, ils voient pour la première fois la toile des Gonchil. Et là, ils ont une réaction complètement aberrante, d'une certaine manière. Et on se dit, ça, on ne peut pas l'inventer.
C'est vrai, c'est pas inventé. C'est-à-dire, le fou rire m'a été effectivement raconté par la personne à qui, puisque ce film est inspiré d'une histoire vraie, enfin, c'est une œuvre d'imagination, les personnages sont largement imaginaires, mais à la base, il y a une histoire vraie. Et certains détails, effectivement, ne sont pas inventés, entre autres celui-là.
Alors la question qu'on peut se poser aussi, c'est que finalement, les deux personnages là, de Léa Drucker et de Alex Lutz, est-ce qu'ils ont du goût ? Est-ce qu'ils aiment la peinture ?
C'est une belle question, parce que de par leur profession, ce qu'ils doivent voir d'abord, c'est combien ça vaut. Ce qui n'est pas exactement la même chose que de trouver une œuvre belle et d'avoir un rapport désintéressé à l'art. Néanmoins, je pense qu'ils ont du goût, effectivement, et que s'ils font ce métier, c'est tout simplement parce qu'ils s'y connaissent, et pour s'y connaître, il faut quand même avoir du goût. D'un côté, ils apprécient la beauté en soi de l'œuvre, mais se surimpressionne à ça la valeur spéculative qu'elle peut prendre et qui est évidemment la chose la plus importante et ce pourquoi ils sont payés en quelque sorte.
Justement, à la fin, le conglomérat qui achète l'œuvre, on ne sait pas finalement si ce sont des spéculateurs ou des gens qui veulent vraiment préserver la mémoire.
Le conglomérat, c'est pas un conglomérat, c'est ce qu'on appelle une maison de vente. Donc c'est effectivement une maison qui officiellement trafique l'art. Enfin, c'est quelque chose qui se fait énormément et qui a pris même des proportions considérables ces dernières années. Il y a des grandes maisons très célèbres comme Sotheby's ou Christie's qui vendent d'ailleurs pas seulement des œuvres d'art, qui vendent de tout, mais beaucoup des œuvres d'art, qui mettent en vente des collections, qui mettent en vente, Christie's il y a quelques années a mis en vente la collection d'Yves Saint Laurent par exemple après son décès. C'était un grand spectacle qui a eu lieu au Grand Palais, comme ça, enfin, il y avait énormément d'œuvres et ça a atteint des sommes absolument faramineuses. Et donc au centre, il y avait un commissaire-priseur extrêmement célèbre lui-même et chevronné qui menait cette vente. Donc ce sont des maisons de prestige, des maisons mais qui brassent des sommes qui défient l'imagination.
Votre film, je trouve qu'il est écrit un peu comme une poupée russe. C'est-à-dire qu'au départ, il y a le personnage d'Alex Lutz, bon, ses rapports avec sa stagiaire, et puis après, bon, ses rapports avec son ex, avec ses employeurs. Après, il y a les propriétaires du tableau, qui sont d'une classe ouvrière. C'est un récit qui est complètement polyphonique, en fait. Alors, lorsque vous écrivez, vous avez déjà en tête toute la pelote, ou est-ce qu'elle vient au fur et à mesure des scènes ?
Effectivement, pour moi, c'était un défi un petit peu nouveau, parce qu'en général, les scénarios que j'écris se passent dans un milieu qui est socialement plus homogène et avec moins de personnages. Et là, l'un des défis qui m'intéressait, c'était de confronter deux mondes socialement hétérogènes, monde comme ça de la bourgeoisie, de l'argent, et le monde ouvrier qui en est exclu par définition, mais qui se rencontre à l'occasion de la découverte de ce tableau. Donc ça, c'était très intéressant pour moi. Et ça entraîne effectivement ce récit où on passe d'un personnage à l'autre, d'un monde à l'autre, dans des séquences alternées.
C'est un peu Louise, un peu, par moment.
Ça, c'est vous qui le dites. Je ne sais pas ce qu'il aurait pensé du film. Bon, évidemment, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup aimé, avec qui j'ai aimé travailler, qui était un ami, bon, et que je regrette énormément. Mais il est beaucoup plus baroque et beaucoup plus, je dirais aussi, délirant, souvent, que moi. Et il a un talent, enfin, auquel je ne peux pas me comparer. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est la première fois que, dans un de mes films, j'essaye de m'affronter à quelque chose, comme vous dites, de polyphonique.
C'est un peu polyphonique et vous aimez bien brouiller les pistes aussi, parce qu'à un moment, je dis, bon, ok, c'est une comédie de remariage, et puis non. Alors maintenant, il va y avoir une histoire entre Alex et la stagiaire, et puis non. Et puis, la stagiaire le bat à l'hôtel Drouot, elle est attirée par quelqu'un, mais pas pour les raisons qu'on imagine. C'est-à-dire que sans arrêt, en fait, on se trompe.
Oui, j'aime bien ce jeu avec le public, c'est-à-dire créer des attentes et puis les déjouer pour révéler que c'est autre chose qui s'est passé. Bon, comme également on peut craindre pour le destin du tableau à un moment. Enfin, et c'est une façon de créer le suspense et de tenir le spectateur, l'amener sur une piste et puis de montrer que c'est autre chose qui va se passer et ainsi de suite. Tout à fait.
Il y a des moments, j'ai pensé un peu à La Dame du Vendredi, le film d'Howard Hawks, dans la mesure où les dialogues, c'est des mitraillettes en fait. Ils se coupent la parole et tout, mais c'est très percutant. Est-ce que vous travaillez la diction des dialogues avec vos acteurs ?
Oui, forcément. D'abord parce que mes films sont très dialogués, donc il faut effectivement, It's Girl Friday, La Dame du Vendredi est un titre d'ailleurs qui veut rien dire, puisqu'en fait ce que ça veut dire c'est ça vendredi en réalité, qui est effectivement une comédie de mariage pour le coup. Mais il y a effectivement, c'est tout particulièrement vrai de ce film-là, les acteurs parlent à une vitesse extraordinaire et c'est des dialogues d'une densité incroyable. Comme les comédiens de mon film sont des très grands comédiens, qu'ils ont une certaine maîtrise comme ça de l'usage des dialogues, ça fonctionne comme ça. Je n'aurais pas donné spécialement d'indications. Je voulais évidemment qu'il y ait un certain rythme. Et c'est vrai que c'est un film qui marche beaucoup par les dialogues. C'est les grandes scènes dialoguées en général qui font avancer l'action du film. Mais ça, c'est un peu ma façon de travailler en général.
Quand vous écrivez un rôle, vous avez déjà l'acteur en tête? Parce que là, il y a beaucoup d'acteurs avec lesquels vous n'aviez jamais travaillé. Alex Lutz, Léa Drucker, Louis Chevillot, enfin, qui ont travaillé avec Philippe Carrel en particulier au cinéma. Bon, c'est vrai qu'ils sont tous merveilleux, mais en même temps, dans vos films, souvent, c'est des premières rencontres et des rencontres uniques.
C'est vrai. En fait, par exemple, j'avais très envie depuis longtemps de travailler avec Léa Drucker et avec Nora Hamzaoui. J'ai pensé à elles dès le début pour leurs rôles respectifs. En revanche, j'ai pas tout de suite pensé à Alex et à Louise Chevillot, bien que j'ai vu et beaucoup apprécié dans plusieurs films. C'est mon producteur, d'ailleurs, m'a poussé. Il a produit les films de Garrel dans lesquels elle jouait, et également le film de Nadav Lapid, Synonyme, dans lequel elle joue aussi. Et donc, il la connaissait bien et il l'appréciait. Mais j'ai pas tout de suite pensé à elle et à Alex non plus. Même si j'ai une énorme admiration pour lui, à la fois comme comédien et comme artiste en général et comme créateur. J'ai une passion pour son film Guy, qui est une performance extraordinaire. Et un très beau film, par ailleurs.
Je trouve que toutes les scènes qui se situent dans la famille ouvrière sont filmées avec énormément de délicatesse. Et je trouve que la dernière séquence, qui clôt un peu l'histoire, elle est très émouvante, je veux dire. Mais il y a toujours une très grande dignité dans le regard que vous portez sur ces personnes.
Ben, je vous remercie parce que, évidemment, c'est tout à fait intentionnel, mais c'est aussi parce que dans l'histoire qu'on m'a racontée, qui m'a donc servi de base pour ce film, j'ai trouvé le personnage du jeune homme, tel qu'on m'a raconté l'histoire, extrêmement, effectivement digne et extrêmement émouvant. Et il y a dans le cours du récit, tel que j'ai voulu, on part de scènes qui sont plutôt des scènes de comédie, comme la première scène, donc que j'espère est drôle, et pour aller vers l'émotion, en fait. Et l'émotion, c'est effectivement le personnage que joue Arkady Radev, qu'il porte, le jeune ouvrier, sa mère, qui sont vraiment les personnages éminemment positifs de cette histoire. Et oui, enfin, vraiment les plus touchants, tout à fait remarquables.
Ma première question tournée autour de la peinture, quand je vois les affiches de vos derniers films, et puis quand je vois aussi vos films, les personnages, la façon dont ils sont, disons, presque dessinés, habillés, j'ai l'impression que vous aimez bien la ligne claire, quand même.
Ah, tout à fait. Moi, je suis un boomer, donc... comment dire, j'ai grandi avec Tintin, Edgar P. Jacobs, la ligne claire belge qui a certainement formaté un peu mon goût sur le plan narratif aussi, sur le plan de l'expression. Flock, évidemment, qui fait les affiches de mon film, est un héritier de cette ligne claire. C'est une expression tardive, mais tout à fait représentative, oui, c'est vrai, tout à fait.